Alors bonjour à tous, je remercie donc les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à participer. Il est vrai que depuis quelque temps, en rapport à mon expérience plutôt de directrice hein, de mémoire et de thèse, je m'intéresse à la situation des jeunes chercheurs hein, et c'est pour ça que Pascal Haag et moi on s'était mis en contact au départ en raison de ceci. Donc, pour commencer, une petite précision, hein, j'en suis venue à m'intéresser aux enjeux de l'initiation à la recherche à travers une double expérience professionnelle. Ma participation simultanée au master Arts, Langues, Lettres et Langues, mention Lettres, Langues et Cultures étrangères de l'UFR Lettres et Sciences humaines de l'Université de Reims et simultanément donc ma participation au master Théorie et pratique du langage et de l'art et le doctorat Arts et langages à l'EHESS à Paris. Donc les deux expériences se déroulent à partir de 2006, on va approximativement, hein. Et je n'ai pas le temps ici d'évoquer ma situation personnelle, mais je dirais tout simplement que ce qui est vrai, c'est que cette circulation ou cette double participation à la formation de deux institutions aussi différentes, hein, et au niveau de la carrière est plutôt une perspective de carrière est plutôt négative. Et en revanche, elle est très positive en termes d'apprentissage, en termes épistémologiques et en termes de progression intellectuelle. Donc, s'il s'agit de formation et d'institutions qui diffèrent très largement, hein, donc d'une part, vous avez une université de province de taille moyenne, hein, l'UFR Lettres et Sciences humaines de l'Université de Reims compte 1200 étudiants, hein, et d'autre part, une grande école dont l'objectif est la formation à la recherche. En revanche, les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants au moment où ils passent de la licence au master restent similaires. Je pars de l'idée, personnellement, que celle-ci résulte en partie d'une représentation tardive, partielle et souvent peu définie du métier, hein. Mais la complexité des structures qui organisent actuellement la recherche, en particulier la diversité des statuts, des fonctions et des situations des agents qui sont engagés dans la formation et la recherche, contribue également à rendre cette période difficile. La mise en place du système LMD n'a pas pris en compte les enjeux spécifiques de ce passage, ce qui transforme ce territoire en une sorte de no man's land, hein, mais qui reste néanmoins un moment où les étudiants jouissent d'une grande liberté en sortant d'un système universitaire particulièrement scolaire. Or, des données d'ordre pragmatique réduisent leur marge de manœuvre et les forcent à résoudre les situations en fonction de paramètres indépendants de leur projet personnel ou les mènent à une définition parfois peu satisfaisante de leur projet. Je propose d'examiner donc rapidement trois aspects qui marquent ce passage entre licence et master, les choix auxquels sont confrontés les étudiants et les conditions dans lesquelles ils se réalisent, ce que j'appelle le parrainage, hein, le tutorat, enfin, chacun peut utiliser son terme, hein. Et la troisième question, ça sera l'objet et sa définition dans un projet personnel. Donc en ce qui concerne les choix auxquels sont confrontés les étudiants et les conditions de leur réalisation, je dirais qu'au moment où les étudiants entrent dans la formation en recherche, ils sont confrontés à quelques choix essentiels. Essentiellement, un étudiant doit décider de la discipline dans laquelle il veut travailler, puisque les masters proposent une série de mentions et de spécialités nouvelles par rapport aux orientations à la licence. Il doit définir également un objet de connaissance, choisir une institution, donc ça serait le troisième choix, dans laquelle développer son travail de recherche, ce qui en France signifie également faire un choix entre université et grandes écoles, un choix qui n'est pas toujours facile. Et pour finir, un étudiant doit choisir un directeur, ce qui implique également s'insérer dans une tradition critique. En général, la réalisation de l'un de ces choix entraîne l'autre. Là, je pense qu'il faudrait peut-être des enquêtes plus poussées, hein, mais c'est ce que moi, en tout cas, j'ai pu constater. Le plus souvent, c'est soit l'objet, soit l'institution, soit le type de formation qui sont privilégiés, hein. En réalité, en France, en raison de facteurs qu'on a déjà évoqués ce matin, c'est-à-dire l'hyperconcentration de la recherche, hein, et des grands établissements en sciences humaines et sociales à Paris et dans sa région, hein, reste un fait dominant, hein, et assez aberrant par rapport à d'autres pays européens, mais qui détermine que, pour beaucoup, le choix est géographique. C'est-à-dire, pour beaucoup d'étudiants, le choix se limite aux universités qui sont dans leur région, évidemment. Ainsi, on peut dire que les conditions de réalisation du master dépendent essentiellement de facteurs géographiques et économiques, tout en constatant que, et c'est un point qui me semble intéressant de la réforme LMD, cette réforme a accordé au master une plus grande autonomie de fonctionnement et a augmenté, malgré tout, la mobilité, puisque beaucoup d'universités ont doté leur master, justement, pour attirer des étudiants d'un profil particulier. Si cette étape implique donc un certain nombre de décisions dans lesquelles se joue une partie de l'avenir des jeunes chercheurs, les conditions dans lesquelles se réalise ce choix restent cependant difficiles à cerner. Mais ce qui reste indéniable est que ces décisions dépendent entièrement de la capacité préalable à identifier une communauté scientifique, à distinguer ses traits, ses normes et son fonctionnement spécifique. C'est Imre Lakatos qui, dans un article célèbre, Lectures on Scientific Method, avait développé cette question et avait déclaré de façon un petit peu négative, enfin pessimiste, les possibilités d'insertion seraient inexistantes pour un jeune chercheur s'il n'arrive pas à identifier les enjeux de la communauté scientifique dans laquelle il souhaite travailler. Je pense au moins que ça reste très important. En ce qui concerne le parrainage, ce que j'appelle le parrainage, donc j'utilise ce terme parce que j'essaye de désigner par là le rapport entre les étudiants et les tuteurs, mais également, comme vous le verrez, le rapport entre des étudiants et d'autres enseignants qui ne sont pas forcément leurs tuteurs. C'est au moment où ils passent de la licence au master que les enjeux de la communauté universitaire et scientifique apparaissent clairement aux étudiants, c'est-à-dire en entrant dans l'espace de la recherche, ne serait-ce que parce que la direction de mémoire de master est généralement réservée aux professeurs et aux maîtres de conférences habilités. Si l'image, comme je le disais, que propose Lakatos de l'entrée dans le milieu de la recherche peut sembler décourageante, c'est parce qu'il considère que tout se joue dans les choix initiaux, qui résulte en partie du hasard et de la chance, c'est ce qu'il dit. Cependant, on peut atténuer cette perspective à partir d'une réflexion sur ce que j'appelle le parrainage ou protection par un intellectuel prestigieux ou important en termes de pouvoir institutionnel. Alors là, vous verrez que ce n'est pas si simple, toutes ces questions. Le nombre de jeunes chercheurs s'étant considérablement accru depuis les années 70, comme on disait également ce matin, la plupart des chercheurs ont 30 inscrits. Je crois que c'est une moyenne. Je pense que 15 est le chiffre qu'on peut vraiment arriver à gérer avec moins de problèmes. Mais 30, c'est énorme, et la plupart des chercheurs gèrent 30 étudiants. Donc les structures de recherche et d'enseignement également ont subi des transformations radicales et je pense que le rôle du directeur s'est également radicalement modifié, au point qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'un nom prestigieux dans les sciences humaines et sociales, au moins un nom prestigieux, un intellectuel à forte visibilité ou qui jouit d'un pouvoir institutionnel, ne peuvent plus garantir une insertion professionnelle, bien que certains de ces critères restent un atout, peuvent rester un atout dans le milieu. Aujourd'hui, le parrainage s'exerce d'une autre manière, c'est ce que j'appelle l'implication active, qui parfois peut devenir directive du parrain, la volonté délibérée de s'engager dans la carrière d'un étudiant, qui peuvent jouer un rôle déterminant. Mais afin de mieux saisir ce fonctionnement, je pense qu'il faut établir une différence entre le directeur effectif et ce que j'appelle les gestes de parrainage, c'est-à-dire qui ne viennent pas forcément du directeur de recherche, mais parfois d'autres chercheurs qu'on est amené à croiser. Et il est une affaire d'opportunité et de hasard, peut intervenir dans tous les moments de la carrière et avoir un pouvoir ou des conséquences très importantes dans la carrière des jeunes chercheurs. Alors pour un exemple, je n'aurai pas le temps de l'expliquer ici, mais je vous renvoie à Triste Tropique, au chapitre initial où Lévi-Strauss raconte le début de sa carrière. Et il parle du fait que donc c'est Sébastien Boulet qui l'a appelé un jour et il ne faisait pas partie de son groupe. Mais voilà, je vous renvoie à tout ceci. Donc ces gestes de parrainage dont j'essaie de saisir la spécificité depuis quelque temps interviennent plus souvent qu'on ne pense et peuvent être plus déterminants qu'un parrainage effectif parce que tout en permettant l'avancée des carrières, ils suscitent des interrogations nouvelles et introduisent des perspectives inattendues sur le fonctionnement de la topographie académique. Ils traduisent un mode de fonctionnement de la communauté, car si certains chercheurs concentrent leurs efforts sur un cercle réduit d'étudiants, ce que Lévi-Strauss il le rappelle dans Triste Tropique, on appelait, nous sentons, son écurie, l'ensemble d'étudiants qui travaillent avec un chercheur, d'autres favorisent un nombre important d'étudiants auxquels ils ne sont pas liés par des attaches institutionnelles. Donc ces rapports, vous voyez, sont très difficiles à saisir parce qu'ils n'ont pas de visibilité institutionnelle. Cependant, on évoque rarement leur importance et leur portée parce qu'ils restent difficiles donc à cerner du fait qu'ils constituent des ouvertures de possibilités et non pas un parcours tracé à l'avance. Certes, ces moments proposent des opportunités. Moi, je pense que c'est vraiment très important dans ma carrière de chercheur, sans lesquelles les carrières ne pourraient se dérouler comme ils le font. Mais ce qui reste néanmoins vrai, c'est que c'est la façon dont on profite de ces opportunités qui est déterminante. En ce qui concerne donc le troisième point, la question de l'objet, je commencerai par dire que si la cohésion des disciplines et des communautés repose sur l'accord tacite ou explicite à propos de ce qu'est un objet, elles ne mettent pas tout en question l'objet. Dans certains domaines, il est devenu impératif de le faire, alors que d'autres se posent rarement la question. Donc moi, à l'origine, ma formation est littéraire, et je peux vous dire que dans la discipline littéraire, on se pose très rarement cette question de l'objet. Or, quelle que soit l'attitude d'une discipline envers son objet, le moment de l'entrée dans la recherche correspond pour les étudiants à la première tentative de définition d'un objet. En ce qui concerne l'inscription en master, universités et grandes écoles, en France bien sûr, ont des modes de fonctionnement différents, en sciences humaines et sociales au moins. Donc à l'université, on n'a pas besoin d'un projet, j'ai presque fini, je passe vite à la conclusion. Donc à l'université, pour ceux qui connaissent le fonctionnement, on n'a pas besoin d'un projet de recherche en général, tout ce qu'on doit faire c'est de choisir une discipline et un directeur évidemment. Alors qu'en master, à l'EHESS, on a besoin d'un projet. Un projet. Donc je ne vais pas développer ceci, mais donc mon propos est simplement de dire que je pense qu'on manque d'un espace institutionnel pour apprendre déjà ce qu'est la recherche et apprendre à formaliser un projet et aussi pour développer tous ces questionnements avant la décision de s'inscrire en master. Donc je passerai vite à ma conclusion. Qui va dans ce sens-là. Donc, la possibilité pour moi de prendre part à ces deux formations a déterminé une circulation entre institutions et donné lieu à une vision particulière de l'entrée dans le milieu de la recherche qui permet de mettre en évidence les enjeux et problèmes communs à l'université et à l'EHESS. Essentiellement, je dirais, le fait que ce passage demande une formation et un temps particulier qui manque d'un espace institutionnel pour se développer. Quand je parle d'espace, je veux dire également un cadre institutionnel, bien entendu. La solution proposée par les universités étant de se consacrer à l'apprentissage de ce passage en M1, formation à laquelle on peut généralement s'inscrire sans projet, comme je disais, et de demander un premier mémoire à la fin de cette première année. Celle du master de l'EHESS, le TPLA, est en revanche d'exiger un projet pour l'inscription, puisque l'institution n'est pas dans la continuité de la licence, puis de ne pas demander de mémoire en M1. Donc de donner un temps de formation en M1. La question pour moi n'en reste pas moins. Qui doit ou qui devrait assumer les enjeux de ce passage et sous quelle forme? Ne serait-il plus rentable pour la recherche si une préparation à l'entrée en master, qui comprendrait une formation au projet de recherche, une réflexion sur la différence entre la licence et le master, et une réflexion sur ce qu'est la recherche dans la discipline qu'on a choisie, était assumée par l'institution avant que les étudiants ne soient confrontés à la décision de s'orienter vers la recherche. Car tout comme le signale Stéphane Bonnery, le sociologue Stéphane Bonnery, à propos de l'école primaire, on peut voir dans cette organisation un délit d'initié. Le système repose implicitement sur l'idée que tous les étudiants qui sont passés par la licence peuvent se projeter vers la recherche et faire un choix en connaissance de cause. L'ouverture d'un espace institutionnel consacré à l'initiation à la recherche, qui précéderait la décision de s'inscrire en master, modifierait sans doute le profil des étudiants inscrits et élargirait l'éventail des possibilités des étudiants en licence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Annick.
Qu'est-ce qu'être jeune chercheur ou chercheureux aujourd'hui ? Si les précédentes communications que nous avons entendues au cours de cette journée faisaient la part belle à l'enquête sociologique ou encore à la conceptualisation, nous n'avons pour notre part d'autres prétentions que de présenter quelques éléments de nos expériences très concrètes de jeunes chercheurs doctorants belges. Plus précisément, nous nous proposons ici une réflexion sur l'expérience de deux chercheurs appartenant à une discipline parfois jugée à la traîne, l'histoire du droit et des institutions. Et nous aimerions parler également de notre tentative de répondre aux défis que peuvent nous poser la révolution numérique au travers de la pratique du blocking scientifique. Alors, je commencerai cette réflexion en livrant une petite définition de travail de ce qu'on peut entendre par « histoire du droit et des institutions ». On peut définir celle-ci comme étant la discipline étudiant l'histoire des systèmes normatifs, qu'ils soient des systèmes normatifs de nature juridique, ainsi que des organisations sociales structurées se perpétuant dans le temps qui gravitent autour de ces systèmes normatifs. Il s'agit bien sûr ici d'une définition de travail qui ne s'exerce, qui ne prend place que dans le cadre de la discipline dite de l'histoire du droit et des institutions. L'histoire du droit et des institutions, ou HDI si vous préférez, est aujourd'hui vue par beaucoup d'historiens comme une discipline relativement ringarde, assez dépassée, La faute peut-être à des ouvrages à l'allure souvent austère et au titre peu séduisant. Je ne sais pas moi, document nouveau sur le droit de vengeance dans les anciens Pays-Bas au XVe siècle, point. Quelque chose de pas nécessairement très sexy, le terme a été employé tout à l'heure. En Belgique, cependant, l'âge d'or de l'histoire du droit et des institutions a été le XIXe et le début du XXe siècle. À ce moment-là, notre pays, encore jeune, cherchait dans ses textes juridiques anciens les fondements de la nation. D'où de multiples éditions de textes, de chartes et d'ordonnances entreprises par les sociétés savantes de l'époque sous la forme d'épais volumes arides à lire. Vous voyez quelque chose qui, justement, aujourd'hui ne paraît pas très, ni très sexy, ni très envisageable dans le monde de l'édition contemporain. Et justement, aujourd'hui, cela fait maintenant une cinquantaine d'années à peu près que l'enseignement et la recherche en HDI a connu un certain déclin, malgré l'influence en Belgique de figures déterminantes telles que John Gillissen, Philip Godding, Raoul van Kangem ou encore Jean-Marie Cauchy. La faute, peut-être, je ne veux pas jeter la pierre, à l'école des annales ainsi qu'à la nouvelle histoire, pour qui les problématiques de l'histoire politique et institutionnelle étaient largement dépassées. Aujourd'hui, l'histoire du droit et des institutions survit essentiellement au sein de centres de recherche affiliés aux facultés de droit des universités belges, tels que par exemple le Department of Legal Theory and Legal History de l'Université de Genk, ou encore le Centre d'histoire du droit et d'anthropologie juridique de l'Université libre de Bruxelles. Des centres qui emploient majoritairement des juristes, même si l'on y trouve également des historiens. Il existe cependant deux exceptions. Il y a d'une part le Centre de recherche en histoire du droit et des institutions de l'Université Saint-Louis-Bruxelles et d'autre part le Centre d'histoire du droit et de la justice de l'Université catholique de Louvain. Il se trouve que ces deux centres sont uniques en leur genre en Belgique car ils sont les seuls à relever d'une faculté de philosophie et de lettres plutôt que d'une faculté de droit. Ceci a pour conséquence que la plupart de ces membres de ces deux centres sont des historiens de formation. Et ceci témoigne sans doute d'une spécificité du système belge par rapport au modèle français. En effet, en France, il existe un clivage assez fort entre ceux qu'on appelle les historiens qui ont étudié l'histoire à l'université et ceux qu'on appelle les historiens du droit qui, eux, sont juristes de formation. Ce n'est pas le cas en Belgique. Un tel clivage n'existe pas à proprement parler. Parce que, être historien du droit, tout universitaire étudiant tout simplement l'histoire du droit. Bon, pour des gens appartenant à une discipline jugée parfois vieillotte, c'est déjà cela de gagner. Alors, le choix d'un titre en franglais pour notre communication, Networking in the Digital Age, est évidemment un peu ironique, car il souligne cette exigence actuelle pour le chercheur de l'internationalisation à tout prix, du réseautage intensif et de la maîtrise indispensable de l'outil numérique. Comment satisfaire à ces exigences lorsqu'on appartient à une discipline jugée aussi austère que l'histoire du droit et des institutions, qui, sur la toile, cela peut bien intéresser, par exemple. Alors, quelques initiatives heureuses sont à signaler, telles que l'incontournable site collaboratif Criminocorpus, qui propose, entre autres choses, de grandes entreprises d'édition de textes juridiques et de textes de loi anciens. Mais comment, à son échelle individuelle, le thésard en HDI peut-il contribuer à une plus grande valorisation de sa discipline au travers de l'outil numérique? Pour notre part, pour Nicolas et moi, nous avons fait le choix d'ouvrir depuis septembre dernier un carnet de recherche sur la plateforme en ligne Hypothèse, que vous connaissez peut-être, et qui, avec Open Edition Books, Revue.org et Calanda, appartient au grand portail général Open Edition. Le nom de notre carnet, parenthèse, fait référence à un double objectif. D'une part, de laboratoire méthodologique pour nos recherches doctorales et d'autre part, de temps de récréation, de, entre guillemets, parenthèse dans nos vies de doctorants. En effet, le carnet se veut un lieu de promotion et de diffusion de l'histoire du droit et des institutions. Nous publions notamment des billets sur l'actualité de la recherche ainsi que des interviews d'autres doctorants et professeurs. La dimension récréative de ce carnet est présente aussi dans le fait que nous essayons de nous aventurer en dehors de nos champs de recherche habituels pour proposer des réflexions sur le métier de chercheur ou sur d'analyse de certains médias modernes tels que les séries télévisées ou le cinéma. Nous avons ainsi publié des articles. Nicolas a travaillé sur la représentation des institutions dans la série The Wire, sur écoute en français. On a publié un article sur la question des commémorations de 14-18 en lien avec une conférence qui avait été donnée à l'Université Saint-Louis. On a aussi publié des articles, par exemple, sur l'usage de la note de bas de page dans le milieu académique ou encore, par exemple, sur la place de l'humour dans les sciences humaines. À l'heure actuelle, nous tâchons de publier en moyenne un article mensuel, soit 2 billets par mois. Certains textes sont individuels, d'autres sont signés par nos deux noms sous le pseudonyme de Simon Vereken. Bien que nous ne puissions tenir la comparaison avec les poids lourds des carnets de recherche francophones tels que Devenir historien ou Devenir historienne, notre carnet rencontre quand même un petit succès. Ainsi, en 6 mois d'existence, le carnet comptabilise en moyenne 1 200 visites différentes par mois pour environ 670 visiteurs différents. Ces chiffres sont cependant à nuancer car on se rend compte qu'en réalité, à peu près seulement 230 visites durent plus de 30 minutes. Autrement dit, on est à peu près sûr que 230 personnes ne sont pas des bots Internet venant sur notre carnet. Bon, ça, ce n'est évidemment pas énorme à l'échelle de gros sites, mais c'est déjà, je dirais, un bon début.
Alors, dans les 3 minutes qui nous sont laissées, j'essaierai de tout simplement expliquer ou en tout cas essayer de proposer quelques réflexions sur un carnet en histoire du droit, pourquoi faire en fait. Il y avait 3 ou 4 paramètres qui nous semblaient relativement intéressants à prendre en considération. Tout simplement, c'est que le carnet de recherche est déjà un moyen d'exprimer, on va dire, ses doutes, ses réflexions et, on va dire, les quelques premières vérités ou évidences que l'on peut avoir au niveau de ses propres recherches ou bien dans des thématiques un tout petit peu différentes. Donc là, comme Quentin l'a dit il y a quelques instants, c'est aussi la possibilité ou je crois un petit peu l'obligation de bien montrer qu'on peut sortir un tout petit peu de sa zone de confort intellectuel et de faire le pas pour paraphraser le responsable de la scientifique fédérale belge, de pas apparaître comme un nimbus en puissance traitant d'une matière qu'on est les seuls à maîtriser. Alors à côté de ce premier point, il y a aussi la capacité à développer une écriture qui devient comme un exercice un petit peu récurrent parce que nos deux expériences étaient évidemment que on ne participe pas ou on ne doit pas rédiger des articles ou des chapitres comme ça toutes les semaines quand on est en début de thèse, même après une deuxième ou voire même une troisième année. Donc le fait d'être dans une logique de tenir un carnet de recherche, c'est, par exemple, on assiste aujourd'hui au colloque, c'est d'ensuite retourner chez nous et de pondre un compte-rendu. C'est d'être dans une logique, en fait, de rédaction qui peut un petit peu nous aider aussi de passer outre le stress de la page blanche quand on devra se trouver peut-être à devoir rédiger le doctorat proprement dit. Alors un troisième élément, c'était recourir au métalangage du net, c'est-à-dire que la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de jeu de mots, il n'y a pas spécialement de vidéos, de liens hypertextes ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi via le fait de tenir un carnet de recherche, la capacité de mettre en avant des vidéos, des illustrations, des liens hypertextes. Et donc dans le tout premier billet qu'on avait publié de présentation, on l'avait un petit peu truffé de liens hypertextes vers des vidéos YouTube, etc., qui nous faisaient personnellement un petit peu rigoler et en lien avec la phrase qu'on faisait. Donc là maintenant, chacun a son humour et on en est bien conscient. Donc, il y a la possibilité d'avoir un ton aussi un petit peu décalé dans la façon d'écrire et on n'écrit pas un billet comme on écrit, bien entendu, si on doit rédiger des actes, enfin un article, une contribution pour les actes d'un colloque ou si on veut soumettre un article dans une revue. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une distanciation que l'on peut faire. Ce métalangage du net, donc comme je le dis, c'est aussi un truisme de dire qu'on ne le répète pas et qu'on ne l'a pas utilisé ici dans notre présentation. Et je pense qu'on a peut-être plus ou moins tous en tête certaines présentations où on s'est dit que là, ça aurait été peut-être plus adapté pour un billet sur un carnet plutôt que sur une présentation orale dans l'amphithéâtre François Furet à l'EHESS. Alors, le troisième élément, c'est qu'il y a aussi un impact non maîtrisable peut-être de l'ensemble des billets que l'on publie. C'est-à-dire que les dans les 5 premiers articles, enfin billets que l'on a publiés, il y avait nos présentations respectives des sujets de thèse. Et après la publication de celui de relatif aux recherches de Quentin, les gestionnaires d'hypothèses nous ont eux-mêmes écrit en disant que voilà, on aimait bien votre billet, on va le mettre en avant. Mais en fait, le mettre en avant, ça voulait dire le mettre sur l'hyposlide, donc c'est-à-dire le diaporama quand vous arrivez sur la page d'accueil d'hypothèses. Et donc, au bout de 15 jours d'activité, on s'est retrouvé avec un billet qui était sur la page d'accueil d'hypothèses. Donc là, il y avait un côté, oui, on est content, mais en même temps, au bout de 15 jours, on s'est dit, c'est quand même un tout petit peu rapide, on n'a pas fait nos preuves. Donc là, il y a un impact qui est un petit peu non maîtrisable et qui nous force aussi à se dire, bon, là, on est un peu mis devant le fait accompli et il ne faut pas écrire n'importe quoi, bien entendu, quand on se lance dans une activité de carnet de recherche. Et d'un autre côté, ça nous a aussi permis, par nos comptes sur les réseaux sociaux comme Facebook, mais aussi Twitter, de rentrer en contact, par exemple, avec le gestionnaire du carnet Devenir Historien, Emilien Ruiz, qui, de lui-même, nous a proposé de faire une présentation de notre carnet sur le sien, étant donné qu'il a plus de 10 000 visiteurs, enfin 10 000 visites par mois. Voilà, donc là, ce n'est pas des liens concrets, on n'a jamais rencontré Emilien Ruiz en personne, mais via l'activité de carnet de recherche, il y a quelque chose qui est quand même possible. Signe qu'avec Internet, on est définitivement dans un tout petit monde, pour reprendre le titre du roman bien connu de David Lodge. Alors, en conclusion, peut-être pour les 2 minutes que j'ai déjà dépassées, la réalité de chercheurs qui tiennent donc un carnet de recherche au XXIe siècle permet une diffusion d'idées, permet de mettre en avant ses projets de recherche, de mettre en avant l'avancée de sa maturation intellectuelle. Et donc, comme on l'a déjà un petit peu répété, le carnet devient une sorte de laboratoire aux portes grandes ouvertes, un véritable esprit réflexif, en quelque sorte, ou espace réflexif. Et c'est peut-être une suggestion tarte à la crème qu'on met ici en avant, mais ouvrir un carnet de recherche permettrait sans doute, pour des centres de recherche ou même des jeunes chercheurs, de valoriser autrement et peut-être de manière un petit peu plus immédiate, en fait, l'ensemble des recherches qu'ils mènent, que simplement disposer une page statique sur un site internet de centre de recherche. Et là, en gros, étant donné notre âge, on a évidemment moins de 30 ans, ça nous a semblé être une opportunité qu'on ne pouvait évidemment pas louper, étant donné l'âge que l'on avait. Voilà, nous vous remercions et on s'excuse un tout petit peu d'avoir dépassé.
Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marluza, je suis docteur en sciences du langage et post-doctorante en sciences du langage aussi à l'Université de Campinas au Brésil. Je souhaiterais vous parler à propos de la question de l'identité et du malaise dans et de la recherche scientifique, en analysant tout particulièrement le cas de doctorants, de jeunes chercheurs, je dirais, au Brésil, qui a été le sujet de ma thèse de doctorat. Cette étude a eu pour base un échantillon d'entretien issu d'une enquête menée dans des universités publiques à São Paulo, dont les participants étaient des doctorants en sciences exactes, les sciences dures, en sciences humaines et en biologie. Alors, prenons pour point de départ cette étude précédente. Je voudrais vous parler de ce que je considérais comme l'un des effets du discours universitaire scientifique. Donc, il s'agit de la construction d'une image de chercheur et d'une image de soi qui fonctionne en tant que pièce d'une machinerie qui à la fois qui non seulement compose les processus de développement de la recherche, mais aussi engendre la production d'un effet de vitrine par lequel la science se montre à la société. J'ai analysé des extraits d'entretiens enregistrés et transcrits qui ont été axés autour d'une question directrice, une question ouverte, que c'est comment vous voyez votre parcours de formation et comment vous voyez-vous en tant que chercheur dans ces processus. Pour comprendre les énoncés pris en considération, j'ai repéré des indices linguistiques qui, à leur tour, renvoient à un fonctionnement discursif. Cette procédure présuppose le dialogue entre les études du discours et d'autres domaines de la connaissance, comme les études lexiques dans les champs des sciences du langage, mais aussi la psychanalyse, la philosophie, la sociologie. C'est donc une recherche transdisciplinaire. En ce qui concerne le choix du corpus et du sujet, il est important de signaler qu'il n'est pas aléatoire, car il constitue une tentative d'apporter au débat un lien entre le monde où nous vivons, ce monde néolibéral, selon Trichet et Marion, 2014, où se conjoignent science et capitalisme. Donc ce monde-là est le modèle institutionnel dans lequel nous nous inscrivons, marqué celui-ci par des changements, par des reconfigurations dans les milieux universitaires et la recherche. Autrement dit, d'autant que l'université est affectée par des changements sociaux et historiques, il s'avère essentiel de questionner aussi bien les sens déjà naturalisés que ceux qui sont en voie d'instauration dans ce domaine. Dans le cadre de cette intervention, je vais présenter quelques énoncés récurrents dans les milieux universitaires brésiliens, avec peut-être des ressemblances dans le milieu universitaire français, européen, afin de réfléchir sur les jeux de force qui est à la base des pratiques universitaires de nos jours et sur la position des chercheurs dans ces jeux. Cette position, nous pouvons la comprendre comme n'étant pas confortable, comme nous l'avons vu ce matin, puisque ces chercheurs s'engagent dans les luttes qui traversent à la fois les relations sociales et la production des connaissances scientifiques. En outre, comme le relèvent Trichet et Marion, je le cite, « cette position ne peut être isolée de la montée croissante du discours de la science » depuis sa naissance à l'époque moderne jusqu'à sa domination dans le monde contemporain. C'est pourquoi je parle d'un certain malaise qui peut être compris dès le malaise dans la civilisation comme la souffrance de s'inscrire dans un appareil social et d'y jouer un rôle. J'essaye donc de repérer linguistiquement des formulations qui peuvent être comprises comme symptômes de ces malaises. Partons donc des fragments tels que le suivant. J'ai choisi de vous montrer ce que disent les chercheurs plutôt que de vous présenter des résultats ou une synthèse qui pourrait peut-être effacer cette voie. Donc je vous présente ce qu'ils disent. Évidemment, j'ai mené des entretiens en portugais. Je vous offre une traduction possible. Et j'ai mis aussi l'extrait en portugais au cas où. On ne sait jamais. Il y a des Brésiliens partout. Le premier extrait, ce que je souligne, c'est le début, ce n'est jamais assez, il y a cette répétition. Et aussi, je remarque également que le participant utilise le mot « entreprise » en parlant des universités. Donc, il était en train de parler de l'université où il travaille, de l'université où il fait sa recherche de doctorat. Donc, il travaille, eux, il fait la recherche en même temps. Et c'est symptomatique qu'il parle « les entreprises veulent », pas les universités. Donc c'est une équivoque assez symptomatique, je dirais. L'extrait numéro 2. Là, je remarque le fait que c'est l'exigence elle-même qui oblige à produire. Ce n'est pas, c'est-à-dire, nous avons une demande dont la source est immatérielle, ou du moins, non, elle n'est pas définie. Donc ce n'est pas l'institution, c'est l'exigence qui exige. Ce qui nous rappelle le fonctionnement de la société de contrôle, dont je parlerai plus tard. Est-ce que vous avez du temps pour lire? Ça va? Oui. Donc je continue. L'extrait numéro 3, donc j'ai souligné quelques plaintes. C'est ingrat, c'est méchant. Et aussi la comparaison entre le chercheur et la machine. On veut que tu produises comme une machine. Les numéros 4. Ça, c'est très intéressant aussi parce que nous pouvons remarquer que le chercheur n'est pas libre, disons, pour montrer le vrai résultat de sa recherche, puisqu'il ne peut pas contester ou contredire ce que la science déjà faite a déjà dit. Donc, il se demande, je vais dire à tout le monde que ces choses ne marchent pas, on ne peut pas le faire. L'extrait numéro 5, ce que je remarque aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qu'ils disent les étudiants en sciences humaines et en sciences dures ou en biologie. Les numéros 5, ici... Je remarque le rapport de quasi-synonymie entre les bons résultats et les résultats commercialisables. Il dit, je vois cette préoccupation de faire un doctorat, d'avoir des bons résultats, de pouvoir publier. Et après, il va dire, on ne regarde que les bons résultats, n'est-ce pas, qui a donné un bon rendement ou qui peut être commercialisable. Cette relation avec le marché. Et le dernier extrait, donc, c'est la plante elle-même. Et l'interviewé va dire, c'est très angoissant pour moi, je crois que ce n'est pas seulement le fait de publier, c'est pas seulement qu'il faut publier, mon « il faut publier » va au-delà, parce que pour se tenir, je dois avoir un article accepté. Donc elle fait la thèse par article, et pour qu'elle puisse soutenir la thèse, elle doit avoir cet article publié, ou du moins accepté, et du coup, je commence à m'arracher les cheveux. C'est ce qu'elle dit. Ces indices font signe, sinon d'une souffrance, au moins d'une plainte, comme nous l'avons vu. C'est une tension très grande, c'est très angoissant, c'est méchant. Il y a même quelque chose d'un peu dangereux. On a ici le bon résultat. Voilà, il y a même quelque chose d'un peu dangereux, parce qu'on ne regarde que le bon résultat. C'est très angoissant, je commence à m'arracher les cheveux. Et cette plante me semble adressée au fonctionnement d'un ordre du discours, si vous voulez, selon Foucault. Il s'agit du discours universitaire scientifique, marqué d'un côté par une politique d'obéissance, d'adéquation aux impératifs de la science toute faite, et de l'autre par l'objectification, la marchandisation et la suppression de la dimension, de la dimension subjective. Qui sont visibles, par exemple, dans l'énoncé « On est une sorte de machine, on veut que tu produises comme une machine ». Il est également remarquable le contrôle constant sur la production de la recherche, et ce contrôle peut être signalé dans les fragments « Il faut avoir des résultats, on ne regarde que les bons résultats ». Donc, l'emploi de l'impersonnel en général nous fait penser à ces contrôles. Oups. Ah, d'accord, merci. Nous fait penser à ces contrôles. La désignation discours universitaire scientifique prend son sens vis-à-vis de cette relation hiérarchique et conflictuelle entre la production et la consolidation des savoirs scientifiques, ou si vous voulez, entre la science en train de se faire et la science prête à porter, selon Bruno Latour. La dialectique dont il est question, pourtant, ne se réduit pas à une polarité ou à ce que Rabatel appelle une logique d'opposition terme à terme. On a un sujet qui joue le rôle de trait d'union entre les processus et le résultat, disons. Donc, cette dialectique remonte aussi, là je cite Dory Morin, à des mécanismes interactionnels propres face à face polémique, à des régimes de rationalité spécifiques. Cette dialectique remonte aussi à un enchaînement d'énoncés, à des jeux, et à des luttes de pouvoir propres au champ des discours. Dans cet enjeu, l'amalgame entre discours de la science et discours capitaliste joue un rôle fondamental, d'autant plus que celle-là, la science, prend de nouvelles significations de ses rapports et devient autre qu'un corps de connaissances consolidées, un ensemble d'objets, de produits, de gadgets, c'est-à-dire de portables, de tablettes, etc. Le malaise découle du fait que cette science elle-même est créée pour et par des sujets qui doivent, eux, rester invisibles. Ce qui cloche dans cette logique, c'est le fait que dans la mesure même où la science ne veut ni de sujets ni de savoirs subjectifs, le chercheur doit s'y inscrire, il doit s'investir avec son savoir, son désir, son propre corps, des façons à produire et à consolider ce que va apparaître comme une vérité désubjectivée. Les voix des chercheurs interviewés font référence aussi à ce qui estime Milner à l'égard de l'université de nos jours, laquelle se soumet, et je cite Milner 2014, elle se soumet aux groupes qui se veulent de plus en plus nombreux à l'échelle mondiale, à savoir les acteurs du marché, vendeurs, acheteurs, producteurs, consommateurs. Nous pouvons remarquer aussi que par son statut d'institution et par son rapport avec la science déjà faite, l'université tend à la dépersonnalisation de ses membres, voire à son objectification soumise au poids des demandes gestionnaires. Ainsi, elle contribue au fonctionnement du discours de la science qui procède par la suppression de cette autre scène, souvent hétérogène, tout en produisant un effet de vitrine, selon l'analyse de Philippe Roqueplot, qui consiste à montrer au public non savant les connaissances dans une forme de mythe ou de certitude. Il va sans dire, je vais bientôt finir, il va sans dire que cet effet s'allie à l'immédiatisme contemporain d'une société de l'image et des contrôles comme la nôtre. Et c'est impératif, par exemple, à rendre visible le résultat, comme le dénonce... Ah, pardon, j'ai oublié de vous montrer tout ça. Bon, là, je suis là. L'impératif à rendre visible le résultat, par exemple, comme le dénonce la répétition de termes qui lie la production à la publication, qui tourne autour de la contrainte, comme le verbe exiger, obliger, coincer, ou le nom en position, exigence, injonction, comme nous l'avons vu. Autre que l'exigence apportée par l'impersonnel, il faut, qui est répété beaucoup de fois. Donc cet impératif renforce un fonctionnement de l'université et de la science qui obéit à une économie du spectacle, une économie un peu perverse, parce que en même temps que le chercheur doit publier et rendre visible sa recherche et son nom propre, il, en tant que sujet, il est invisible. Je vais sauter un petit peu. Donc la question est donc de savoir ce que le fonctionnement de cette machinerie apporte, donc de cette machinerie qui fusionne la science, l'université et le marché, apporte à la discussion de la constitution subjective du chercheur, du jeune chercheur. Des extraits analysés, quoique rapidement, suffisent à montrer que le sujet incomplet est divisé, de même que la science en train de se faire, est de plus en plus effacé, de plus en plus coincé, comme dit une des participants, par les impératifs de la science toute faite et de l'économie de marché. Les déchets de la science de nos jours, autres que les gadgets, semblent être davantage les chercheurs. Et nous l'avons entendu ce matin, des cas de chômage, des précarités de travail, etc. Mais comme nous le rappelle Trichet Marion, je le cite une dernière fois, et je vais bientôt finir, le désir du savant ne se réduit pas au discours de la science. Il peut le déborder tout en problématisant ses rayures, ses béances, son manque constitutif. Il est important donc de se rendre compte que ces chercheurs jouent un rôle de charnière et en tant que pièce d'une machinerie parfois précaire, parfois perverse, il peut aussi, et il doit, je crois que c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui, il doit aussi potentialiser son dysfonctionnement. Voilà, je vous remercie.
Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marion Rolandin et je vais vous parler de la déconstruction de l'activité scientifique du doctorant qui permet l'amorce de l'éthos de l'enseignant-chercheur. Alors, en effet, pour toute personne qui souhaite devenir un enseignant-chercheur, le passage par le doctorat est obligatoire. Alors, pour contextualiser un petit peu les choses, je suis en quatrième année de doctorat au CELSA Paris-Sorbonne, en sciences de l'information et de la communication, et je fais une thèse qui porte, pour schématiser, sur la communication dans les jeux vidéo en ligne et dans les sites de discussion. Alors, si tout se passe bien, je devrais déposer ma thèse d'ici un ou deux mois. Donc, mon parcours est un petit peu particulier parce que je fais mon doctorat sur Paris tout en habitant à Avignon, ce qui est à peu près 3 heures de TGV, pour pouvoir rester avec mon conjoint. Alors, je n'ai pas eu de financement pour les 3 premières années, donc ce qui m'a amené à solliciter un soutien financier auprès de mon entourage, ce que j'ai articulé à un job à mi-temps qui n'avait vraiment rien à voir avec le travail à l'université. Alors, depuis septembre 2014, je suis à terre au CELSA, donc ce qui me fait faire un certain nombre de voyages nord-sud et de pas mal dormir à l'hôtel. Alors, ces conditions particulières, en fait, elles m'ont amené à m'interroger très tôt sur ce qu'était un doctorant, quelles étaient ses obligations, quelles étaient ses possibilités, ses motivations, tout ça pour essayer de mieux comprendre ce à quoi j'allais devoir faire face. Je me suis demandé, par exemple, si le doctorat pouvait être considéré comme un métier qui impliquait de déménager, de prendre des décisions qui allaient vraiment impacter sur ma vie, ou si c'était plutôt à prendre comme une phase qu'il fallait aménager en vue de l'après-doctorat. Alors, au cours de ces 4 années, du coup, j'ai été amenée à côtoyer beaucoup de doctorants dans différents laboratoires, un petit peu partout en France. Donc, ce qui m'a permis d'essayer d'aborder un petit peu régulièrement des discussions sur la condition des doctorants. Alors, pour la réflexion que je propose aujourd'hui, je m'appuie sur ces discussions-là, ainsi que sur mon expérience, en essayant de proposer d'avoir un regard un petit peu réflexif là-dessus. Alors, la période du doctorat est ici considérée comme une période transitoire et charnière de la vie du jeune chercheur, où s'amorce le développement d'un éthos d'enseignant-chercheur à multiples facettes. Le doctorant doit jouer entre les attentes et les nécessités, explorer les possibilités et les contraintes fixées par les institutions et acteurs rencontrés. Donc là, je vais proposer de déconstruire l'activité scientifique du doctorant au regard de la manière dont il va se mettre en scène en tant que futur professionnel de la recherche et de l'enseignement en 3 axes. Les conditions de travail et d'emploi, les relations hiérarchiques et l'injonction à la publication et aux communications. Alors, commençons par les conditions de travail et d'emploi du doctorant. Dans une précédente communication, j'avais défini que être doctorant n'était pas un métier, mais plutôt une phase d'apprentissage pendant laquelle des opportunités d'embauche temporaire pouvaient se présenter, permettant d'avoir une première expérience dans le monde de l'enseignement. Il était ainsi possible de donner des cours, de s'intégrer plus ou moins dans les activités de recherche du laboratoire à travers différents statuts, que ce soit vacataire, à terre, allocataire ou contractuel, je crois qu'on dit maintenant. Donc chacun présentant des spécificités en termes d'attente, d'engagement et de temps de présence à l'université qui vont conditionner de manière différente l'expérience du doctorant. Alors, la présence sur les lieux de l'université est un des points qui diffère. N'ayant pas eu d'allocation, j'ai par exemple eu la sensation que ma présence dans les locaux de l'université n'était pas forcément requise. En effet, un simple doctorant ou vacataire n'a par exemple pas de bureau ou pas forcément d'espace pour pouvoir travailler, contrairement à certains doctorants allocataires qui, dans certains labos, peuvent avoir des bureaux pour exercer leur métier en tout cas. Alors, les doctorants sans financement viennent par exemple pour rencontrer leur directeur de thèse ou pour assister à certains séminaires doctoraux, mais pas forcément plus, ce qui peut contribuer à se sentir isolé et à ne pas avoir d'interaction stimulante avec des personnes de l'université qui peuvent survenir, j'ai eu l'impression, à tout moment lorsqu'on est sur les lieux. Enfin, ça, c'est ce que c'est la sensation que j'ai eue en étant à terre cette année et en promenant un petit peu dans les couloirs de l'université. En fait, quand on est visible, on existe. Et si on ne se montre pas, c'est moins évident. Alors, j'estime que cet isolement ne doit par contre pas être subi. Être doctorant, c'est aussi devoir être dans une période active et non passive. Il faut constamment aller à la recherche d'informations, surtout quand on n'est pas dans les locaux de l'université, et ne pas hésiter à rappeler sa présence et son désir d'engagement. Je pense qu'il faut essayer de profiter de cette non-implication pour tenter de donner, par exemple, des cours dans d'autres universités, ce qui permet de voir d'autres lieux, d'autres étudiants et de développer son réseau. Alors, cette recherche active m'a quand même montré qu'il y avait énormément de perspectives à Paris et beaucoup moins ailleurs, ce qui implique quand même une certaine mobilité, quitte, dans mon cas, à passer son salaire dans les transports et dans le logement pour acquérir une expérience d'enseignement indispensable. Un dernier point important en lien avec les conditions d'emploi du doctorant, c'est que l'on peut être obligé d'assumer des enseignements de tout type, amenant à avoir des capacités d'adaptation dans un temps très court. J'ai par exemple différencié 2 types de cours, ceux liés au sujet de recherche, qui implique de rendre intelligibles des recherches qui sont en train de se faire, ce qui va nécessiter de faire preuve d'une certaine pédagogie et de travailler des capacités de synthèse. Alors là, les questions et les réactions des étudiants vont permettre d'avancer un petit peu dans ses propres recherches. Et le 2e type de cours, qui m'a semblé être le plus courant, est celui où on n'a pas forcément de véritables compétences pour le donner, ayant simplement, par exemple, eu un cours similaire dans notre parcours universitaire. Alors, il y a beaucoup d'autres doctorants qui m'ont expliqué de donner ce type de cours, ce qui implique de faire énormément de recherches dans un temps très court en amont, afin d'essayer de créer un enseignement qui va répondre aux attentes des étudiants, attentes qui sont souvent précises et parfois assez élevées. Alors, si ça peut sembler être contraignant, ça m'a semblé quand même être enrichissant parce que, pour en avoir fait l'expérience très récemment, en me plongeant dans des choses qui ne touchaient pas forcément mon sujet directement, j'ai quand même découvert certaines pistes auxquelles j'aurais pas forcément pensé directement. Je pense qu'il faut aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, ce qui peut être attendu lorsqu'on suit par exemple des travaux de mémoire de recherche qui vont porter sur des sujets très variés. Il faut essayer d'être efficace, d'arriver à encadrer d'autres étudiants, ce qui implique souvent de se renseigner un petit peu en amont sur des thématiques qu'on ne connaît pas. Alors, la recherche et la concrétisation d'expériences d'enseignement me semblent forcer le développement accéléré de compétences pédagogiques et d'autonomie. Alors, parlons à présent des relations hiérarchiques. En effet, tout juste diplômé de master, le doctorant va pénétrer au cœur d'un processus de recherche et doit évoluer, se légitimer en tant que jeune chercheur auprès d'un ensemble d'acteurs allant des autres doctorants aux enseignants chercheurs, ensemble au sein duquel le directeur de thèse occupe une place théoriquement centrale. Alors, il m'a semblé que cette figure du directeur de thèse servait de guide, devait apporter un jugement, mais aussi parfois fixer des échéances. Par contre, j'ai constaté qu'il n'y avait pas vraiment, finalement, d'attente précise à avoir de ce directeur de thèse et qu'il y avait vraiment des rapports très différents en fonction des doctorants et des directeurs de thèse. Certains vont avoir des rendez-vous assez réguliers dans l'année et d'autres vont voir leur directeur de thèse une seule fois, par exemple, au cours du doctorat. Donc, l'encadrement des doctorants est très différent. J'ai même remarqué qu'au sein d'un même laboratoire, certains laissaient le doctorant en totale autonomie, donc parfois, ça relève un petit peu de l'abandon, alors que d'autres vont fixer des échéances et demandent régulièrement des documents pour constater les avancées. Alors, je pense qu'il y a un point qui est quand même délicat à ce niveau-là et qui mériterait d'être approfondi ultérieurement. Enfin, on en a déjà parlé un petit peu ce matin. Donc, quoi qu'il en soit, le doctorant, quel que soit son directeur de thèse, doit concilier avec cela. Et lorsque cela ne va pas de soi, essayer de développer des stratégies pour obtenir des rendez-vous, pour essayer d'obtenir des retours sur ses documents, qui en général sont quand même stimulants pour ses recherches. Alors, avant la soutenance de thèse, ultime rituel, d'autres rituels vont se jouer au sein du laboratoire, comme les fameux séminaires des doctorants, où chacun peut être invité à présenter à un moment ou à un autre ses recherches. Dans mon laboratoire, par exemple, on présente à différents moments. En première année, on explique un petit peu les grandes lignes de son sujet. En fin de seconde année, on présente l'avancée de ses résultats. Et un petit peu avant la soutenance de thèse, on fait un bilan, on présente vraiment les choses de manière plus approfondie. Donc, cela permet de confronter son travail à d'autres personnes que le directeur de thèse et force à rendre intelligible sa progression. Alors, j'ai eu l'impression que si cette étape permettait d'obtenir une sorte de jugement sur son travail, c'était aussi une période où on découvre d'autres travaux, où on apprend à développer une sorte d'esprit critique sur le travail des autres. J'ai eu l'occasion d'assister à d'autres séminaires de doctorants dans d'autres laboratoires en France, ce qui m'a permis de comparer les différents séminaires et de pointer des éléments qui me semblaient enrichir l'expérience du doctorant. Je pense par exemple que s'entraîner à questionner une autre personne sur son travail peut permettre de mieux cerner les attentes d'une thèse. Mais ça m'a semblé être plutôt intimidant, par exemple, de devoir commenter le travail d'un autre doctorant devant des personnes plus expérimentées. Et c'est d'autant plus difficile lorsque, pour les commentaires, c'est les enseignants-chercheurs qui sont plus haut dans la hiérarchie et qui ont plus d'expérience en recherche, qui interviennent en premier, disant quasiment tout. Et ou parfois quand c'est le directeur de thèse qui commente et qui coupe court à toute communication. Il m'a semblé, par exemple, très intéressant de laisser en premier la parole au doctorant avant que les enseignants-chercheurs ne parlent, de réinstaurer cette hiérarchie qui, en termes d'expérience, existe bel et bien. Alors, j'ai participé à un séminaire de recherche où les directeurs de thèse n'avaient pas le droit de s'exprimer, ce qui permettait d'une part de garder des éléments pour un rendez-vous ultérieur avec lui, et d'autre part d'instaurer un véritable dialogue avec les autres membres du laboratoire qui, eux, connaissaient moins bien les travaux du doctorant. Donc, ces aménagements dans la vie du doctorant sont considérés comme des périodes de négociation, de réflexivité et parfois de remise en question qui permettent de se construire comme jeune chercheur et futur collègue. Le dernier axe porte sur la nécessité à laquelle est soumis le doctorant, à savoir l'injonction à la publication et aux communications, éléments qui aujourd'hui sont indispensables pour la qualification. Alors, j'ai constaté que si cette injonction existait, le jeune doctorant ne sait pas toujours par où commencer. Il peut être très effrayant de se lancer, ne sachant pas trop ce qui est attendu, ne connaissant pas forcément les normes. Alors, dans certains laboratoires, j'ai remarqué que les doctorants étaient escortés dans leurs tâches, poussés à se plier à l'exercice dès la première année, ce qui m'a semblé quand même assez pertinent. Alors, cette année, dans les doctorants de mon laboratoire ont créé une association de doctorants et ont organisé, par exemple, une session informative sur les conditions de publication. Et je sais qu'il y a pas mal d'autres associations de doctorants qui proposent des ateliers de travail et de relecture, type d'initiative qui devrait être, j'ai la sensation, encouragée un petit peu partout. Alors, tenter de publier relativement tôt permet de se plier au processus de soumission et d'avoir ses premiers refus rapidement, ce qui permet de s'y habituer. Alors, j'ai constaté en discutant que beaucoup reçoivent des refus, donc ce qui est normal au début. Par contre, ceux-ci vont prendre parfois des formes un petit peu inadmissibles, avec des retours négatifs, mais aussi agressifs et non constructifs, ce qui, pour beaucoup, peuvent sembler décourageants. Alors, s'entraîner à répondre dès le début permet de se familiariser avec ça, de progresser. Parce qu'en effet, s'il existe différents espaces accessibles, il faut s'approprier les différents codes garantissant une acceptation de la proposition, apprendre à affiner la présentation de ses recherches et sa mise en scène de soi, mais aussi de celle de sa discipline lorsqu'on répond à des appels interdisciplinaires. Si, par exemple, ma première proposition d'article complet pour laquelle je m'étais vraiment, vraiment beaucoup investie s'est soldée par un refus très agressif, donc la personne qui l'avait fait me disait que je ferais mieux de ne pas perdre mon temps et de faire autre chose que de la recherche. Donc, ce retour comportait par contre des solutions pour améliorer ma réponse, ce qui était finalement très formateur. Donc, faire des nombreuses tentatives de soumission me semble permettre de se familiariser avec ce processus et augmente les chances de tomber sur des réponses constructives pouvant être véritablement formatrices.
Vous pouvez conclure.
Communiquer dans des journées d'études aussi me semblait encourageant, devrait être encouragé afin de pouvoir tisser un réseau de relations et éventuellement de pouvoir avoir des pistes pour écrire en duo, par exemple. Alors, pour conclure, le doctorat est une phase transitionnelle de construction dynamique, d'autonomie et de prise de décision, de plus en plus complexe, chargée de plus en plus d'attentes, avec des natures diverses. Donc, cette phase peut être très inégale en fonction entre deux doctorants. Ce parcours du doctorant est jalonné de rituels de médiation de ses recherches, phase essentielle pour sa construction en tant que futur enseignant-chercheur. L'activité scientifique du doctorant se joue sur des plans qui ne se limitent pas seulement à l'écriture de sa propre thèse. L'avenir du doctorant est en effet profondément lié à son activité scientifique, celle-ci étant jugée lors du processus de qualification pour devenir maître de conférence. Le doctorant doit cependant garder à l'esprit de se préserver sur le plan psychologique afin de mener à bien son travail de thèse. En effet, les remises en question, la solitude ou le stress sont des sensations ou émotions fréquentes. Il me semble indispensable d'arriver à acquérir des capacités réflexives permettant une certaine distanciation, ainsi qu'une bonne dose d'optimisme, afin de rebondir allègrement au-dessus des différents obstacles qui se présentent. Merci.
Merci à tous de ces quatre interventions sur l'expérience doctorale. Est-ce que je peux demander à Annick et à Quentin et Nicolas de venir et on va faire 5 minutes de questions.
Bonjour, je voulais adresser une question à Annick. Donc je voulais peut-être vous donner l'occasion parce que j'ai l'impression que vous avez dû à la fin très vite passer à la conclusion.
Oui.
Et c'était un moment où vous aviez abordé l'idée de délit d'initié et peut-être vous donner l'occasion d'un peu approfondir parce que je n'ai pas personnellement très bien compris quelle était la nature de ce délit et quelles pouvaient être éventuellement les conséquences pour le processus de production du savoir dont on a déjà parlé un peu plus tôt aujourd'hui.
Oui, très bien, merci pour votre question. Donc oui, je suis désolée, je parlais très vite en plus, ce qui n'arrange pas les choses. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que, étant donné que il n'y a vraiment aucune préparation à ce que le monde de la recherche dans la licence, en tout cas en France, dans la plupart des universités, il faut quand même en connaître les enjeux pour prendre la décision de s'inscrire en master, et que si cette préparation existait au préalable, je pense que le profil des inscrits changerait. Parce que pour beaucoup de gens, quand je dis des lignes initiées, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même comprendre les codes, les codes, la signification de la recherche, la portée, le type de travail, etc. Alors Stéphane Bonnery, lui, le dit par rapport à l'école primaire. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école primaire et qui maîtrisent déjà les codes scolaires parce que leurs parents relèvent d'une culture scolaire, mais que l'école ne va pas expliciter ces codes scolaires. Donc ceux qui ne les possèdent pas, l'école ne prend pas en charge le fait de les expliquer. Et c'est en ce sens que je pense qu'il y a une sorte aussi pour nous dans ce passage, une sorte de délit d'initié, parce que en s'inscrivant, disons, en terminant la licence, pour beaucoup d'étudiants, pourquoi ils s'inscrivent ? Eh bien, il y a des raisons très variées, mais elles ne relèvent pas très souvent d'une compréhension de ce qu'est la recherche. Est-ce que c'est plus clair ? Merci.
Moi, j'avais aussi une question pour Annick, c'était à propos de, pour continuer un peu dans cette même idée, c'est-à-dire non maîtrise des codes de la recherche, mais non maîtrise également de tout ce qui va avec, c'est-à-dire par exemple quand on est dans un établissement universitaire, on a le projet de continuer en recherche, et puis finalement le lieu dans lequel on va faire cette recherche, le directeur qu'on va choisir, va considérablement, ou en tout cas à mon avis beaucoup orienter, par exemple l'inscription théorique dans la discipline dans laquelle on va se mettre, et dont on n'a pas nécessairement conscience. Alors je ne sais pas si avec mes petits camarades, quand on était en master, on était extrêmement naïfs ou crédules, mais on ne se rendait pas compte de l'effet d'enclicage en quelque sorte du choix du directeur, d'un certain nombre de choix théoriques qu'on opère, et qui ensuite, une fois lancé, disons, dans la carrière, contribue à nous ficher parce qu'on est doctorant d'un tel, ou parce qu'on s'est inscrit dans tel ou tel courant théorique.
Oui, moi personnellement, ce que je pense, c'est que ces choix se font pour des raisons variées, mais ils ont quand même des conséquences ridiculement importantes parfois par rapport à nos carrières. Alors on maîtrise pas forcément les codes, on connaît pas la communauté scientifique, on ne comprend pas la conséquence de ce qu'on va faire, on sait pas avec qui on est en train de s'inscrire. Enfin, en tout cas moi, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire quand je me suis inscrite en thèse. Et je pense que justement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des enquêtes où les étudiants puissent tous répondre en hiérarchisant nos choix. Qu'est-ce qui a mené à quoi ? Alors en revanche, c'est vrai que dans les petites universités, c'est souvent un choix géographique, parce que les étudiants soit ne peuvent pas aller à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit ils n'aiment pas la grande ville. Hein. Beaucoup de gens qui habitent dans les villes autour de Paris n'aiment pas Paris. Et donc cette année, j'ai eu par exemple en philosophie dans mon cours d'initiation à la recherche. Donc moi, j'assume tout ça dans mon cours d'initiation à la recherche, au fait, auprès des philosophes, l'aide moderne, l'aide classique, étudiants d'espagnol et sémantique. Ils ont été à Paris pour la licence et ils ont détesté Paris. Donc ils sont retournés pour faire la maîtrise à Reims, ce qui fait que leurs choix ont été radicalement réduits. Il n'y avait qu'un enseignant qui a accepté de les prendre parce qu'il ne les connaissait pas en licence, parce que le projet ne les intéressait pas, etc. Et il y a aussi la question qui est très intéressante des spécialités. Hein, dans les petites universités, moi j'ai vu des étudiants vraiment vivre... Enfin, une situation extrêmement frustrante parce que leur sujet n'était pas accepté et il n'y avait pas des spécialistes de la question. Et c'est malheureusement souvent le cas des sujets qui sont interdisciplinaires. Et là, je pense qu'il y a une déperdition de sujets vraiment productifs, intéressants, nouveaux, innovants, parce qu'il n'y a pas quelqu'un capable d'assumer ça. Hein.
Je ne sais pas si j'ai répondu, oui, à peu près.
Oui, alors l'autre, on en a parlé un petit peu ce matin. Moi, ce que je prêche un petit peu, mais personne, enfin, je suis pas sûre que les collègues m'écoutent, hein, mais c'est qu'au moment où on reçoit un projet de recherche, il faut proposer, qu'on prenne ou non l'étudiant, donc qu'on ait pris une décision ou non, il faut proposer un rendez-vous. Et au cours de ce rendez-vous, j'essaie d'expliquer aux étudiants en quoi ils sont en train de mettre les pieds, quoi. Et pourquoi choisir un tel et pas un autre, et même être honnête, hein, par rapport à ce que nous, on peut faire pour eux.
Donc, ma question, c'est plutôt pour Nicolas et Quentin. Donc, félicitations d'avoir lancé ce mouvement parenthèse. En fait, en écoutant plusieurs intervenants maintenant, donc on parle beaucoup de la nature de la science qui a changé profondément, et aussi en même temps de l'invisibilité, justement que Marloussa parlait, qu'en fait on reste tellement invisible dans le travail effectivement qu'on fait, et cette partie de réflexivité par rapport au travail. Donc quel intérêt est-ce qu'on a d'intégrer un carnet de recherche, par exemple, dans la thèse? Donc disons que ça fait partie vraiment de la recherche, en disant chaque fois d'avoir... donc, je sais que dans la thèse, on est censé d'intégrer voilà, les méthodes, les contraintes qu'on a rencontrées, voilà, les rapports éventuels, etc. Mais est-ce que ce n'est pas aussi intéressant justement pour nous de développer un regard méta-analytique sur la recherche? Par exemple, moi, je suis dans un projet FP7 avec Bernard et je me rends compte qu'un tiers du temps, je suis en train de réfléchir sur le comportement des chercheurs dans ce projet. En disant que je suis en train de tout le temps réfléchir à oui, mais pourquoi on fait ça comme ça, quelles sont les contraintes qu'on a. Donc il y a tout le temps continuellement cette réflexion en fait qui se fait. Est-ce que ça n'a pas place dans la recherche même, ou est-ce que ça doit être vraiment mis à part, comme vous l'avez fait d'ailleurs avec votre site, etc.
Tout d'abord, merci pour votre question. La première chose que je dirais par rapport à cette question de la valorisation de la recherche, c'est je me permettrais de citer une lectrice qui nous avait envoyé un message sur Twitter qui nous avait fait très plaisir et qui nous avait dit: je n'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais rire avec l'histoire du droit et des institutions. C'est pas à dire, mais c'est vrai, c'est ce qu'on essayait de dire dans notre conférence, dans notre communication, pardon. On appartient à une discipline qui a la réputation d'être excessivement sérieuse. À la limite, d'autres disciplines telles que la sociologie, par exemple, peuvent avoir cet avantage d'avoir derrière eux des grands penseurs tels que, par exemple, je ne sais pas, Baker, qui montre que on peut avoir des démarches exploratoires un peu qui sort des carcans académiques stricts de l'université telle qu'elle a pu être pensée au début du XXe siècle, l'intellectuel autrichien viennois que sais-je dans sa tour d'ivoire. En histoire du droit des institutions, on n'a pas encore tout à fait cette réputation. Donc, pour nous, c'est un premier aspect important, c'est de pouvoir montrer à travers un carnet de recherche cette visibilité d'une discipline qui est finalement pas si connue que ça, d'autant que, comme je le disais, elle est un peu bâtarde puisqu'elle rassemble à la fois des historiens du droit. Il y a le fait aussi qu'on essaye de montrer qu'on peut explorer d'autres formes de langage, par exemple à travers le métalangage internet, les hyperliens, une petite touche d'humour, sans pour autant que ça dénature le fond. Évidemment, ça doit rester au niveau de la forme, et la forme doit être au niveau du fond, et non l'inverse. Alors maintenant, c'est la question de l'intégration ou non de toute cette réflexion à la thèse. Je pense que quand nous employons l'expression de laboratoire méthodologique pour le carnet de recherche, c'est vraiment ça. C'est un premier terrain d'expérimentation de nos idées, à la limite de, entre guillemets, pré-publication, puisqu'on met quand même quelque chose sur Internet, et mine de rien, ce ne sont pas des textes en l'air, puisque théoriquement, le site a un DOI, donc il est référencé, il y a un aspect officiel, ce n'est pas des paroles qui s'évaporent en rien. Non, c'est quelque chose qui est ancré dans une réalité, et donc ça nous engage malgré tout, ça engage nos réputations, et donc aussi, c'est l'occasion pour nous un petit peu de mettre une première fois à l'épreuve un certain nombre de nos idées, avec l'espoir qu'il puisse y avoir des commentaires, puisque le plaisir d'un carnet de recherche, c'est qu'il peut y avoir des interactions réelles avec les lecteurs, ce qui n'est pas le cas dans un article publié dans une revue, mis à part pendant la phase de peer reviewing, évidemment. Donc ça, c'est une richesse. Et on peut éventuellement, effectivement, développer des réflexions qui peuvent ensuite être intégrées à la thèse. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est la question du jeu. On écrit, généralement, notre carnet, on l'écrit en jeu, sauf quand on fait des articles à deux, là, on emploie le « nous ». Mais en histoire, ce n'est pas quelque chose qui est très accepté, l'emploi du jeu. On écrit encore énormément en « nous », et à part peut-être les historiens anglo-saxons qui, eux, écrivent à la première personne du singulier, ce n'est pas quelque chose qui est encore beaucoup utilisé. Et, mine de rien, c'est quelque chose qui mérite une réflexion en soi, d'autant que beaucoup de jeunes chercheurs la première fois qu'il s'essaye à l'écriture en jeu, exprime un certain mal-être, un certain malaise, et le carnet est un moyen d'exercer ça, une première fois, de se jeter à l'eau, et finalement peut-être de se dire, on peut peut-être essayer après, pourquoi pas, écrire sa thèse en jeu, pas par égo démesuré, mais au contraire, dans une démarche scientifique, de considérer qu'on intègre sa propre subjectivité à notre recherche, justement parce qu'on n'essaie pas de se cacher derrière un « nous » qui est un peu illusoire, un « nous » soi-disant objectif, mais qui n'en est pas un, fondamentalement, on reste fondamentalement des subjectivités par rapport au sujet qu'on traite. Et donc, en cela, je pense que la réflexion qu'on peut aborder une première fois sur un carnet de recherche peut avoir un impact réel sur la thèse et donner lieu à une transformation réelle de la thèse elle-même à travers le carnet de recherche. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
D'ailleurs, pour juste rajouter deux mots, le carnet de recherche n'est pas non plus un endroit qu'on a envisagé comme étant la possibilité de prépublier un chapitre de la thèse ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Ça peut être un élément pour, parce que les billets sont relativement courts. On nous dit qu'ils sont très longs, mais en fait c'est parce que le layout est problématique. Mais c'est des textes qui font maximum 3 pages en format Word, donc c'est vraiment des textes très courts, mais qui permettent alors au moins de structurer un petit peu la pensée. Tout bête, on fait de l'histoire du droit et des institutions. Bon, une amie doctorante nous a dit voilà, à la soutenance, on m'a demandé bon pour vous c'est quoi une institution. Et c'est vrai que bon a priori ça peut sembler aller de soi, mais quand on commence un petit peu à creuser, et donc là la possibilité ensuite de faire un petit billet en ayant lu à la fois des cours en sociologie, en philosophie, en histoire, etc., permet alors là de nourrir la recherche et d'avoir déjà un petit cadre intellectuel en prédisposition par rapport à quelque chose qui devrait être peut-être alors là plus ample au niveau de la rédaction même d'un chapitre de thèse par exemple.
Merci.